le 6-9 de l'été. Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
On y est presque, hein, le G7 débute ce week-end à Biarritz.
Et il n'est pas inutile de se poser quelques questions préalables, à commencer par celle-là, le G7, Quesaco. D'abord le nom, G7 c'est groupe des 7 avec deux critères qui se sont précisés au fil du temps. Les 7 économies les plus importantes de la planète, certes, mais aussi 7 démocraties. À l'époque où il a été fondé, au cœur des années 70, il avait un sens précis. Nous étions en pleine guerre froide, un monde, les démocraties libérales s'opposaient à un autre, le communisme réel et planifié. On a commencé à 5 en 74 dans la bibliothèque de la Maison Blanche, puis on a ajouté l'Italie, le Canada et de façon informelle en 94 puis formellement en 97, la Russie. Voilà donc 8 chefs d'État et de gouvernement en voyage annuel, en goguette en somme, chez l'un ou l'autre.
Et c'est la question quand même que tout le monde se pose, est-ce que ces G7 sont encore utiles?
D'abord, pour commencer, on va essayer de bien comprendre. En diplomatie, il y a deux types de formats, l'institutionnel et l'informel. Le premier se passe au sein d'institutions type ONU, Union Européenne, Union Africaine, Conseil des États de la mer Baltique, j'en passe, et des dizaines. Le G7, lui, n'est pas un format diplomatique institutionnel. Pas de cafette, pas de régime de retraite, c'est-à-dire pas de siège permanent ou de fonctionnaire dédié avec des traitements scandaleusement élevés et surtout exonérés d'impôts. Le G7 appartient donc à la seconde catégorie, celle des rencontres informelles, donc personnelles. La théorie voulait que la globalisation et le multilatéralisme aidant, ces rencontres personnelles, d'homme à homme ou à femme, au singulier, parce qu'il n'y en a souvent qu'une, perdraient de leur importance.
Et ce n'est pas ce qui s'est passé.
Eh bien non, c'est même l'inverse. Plus les formats institutionnels se complexifient, plus les chefs d'État et de gouvernement ressentent le besoin de régler une partie des problèmes internationaux au terme de rencontres personnelles et privées. C'est d'ailleurs pourquoi l'exclusion parfaitement justifiée, hein, par ailleurs, en 2014 de la Russie a été si blessante pour Vladimir Poutine, pour un homme qui, comme lui, croit avant tout à ses rapports personnels et privés. Être privé de G8, donc de G7, est un véritable crève-cœur. Mais surtout, c'était une occasion unique et annuelle de faire valoir les intérêts de son pays, la Russie. Dans les années 90, par exemple, le format en G8, incluant donc la Russie, a été très utile pour convaincre Moscou de retirer ses troupes des États baltes en pleine sécession.
Il y a d'autres exemples, Anthony, où les G5, 6, 7 ou 8 ont été utiles?
L'ADN de ces rencontres est avant tout économique. C'est pour coordonner les politiques économiques du monde occidental face au premier choc pétrolier qu'ils ont été créés. En 98, c'est le G8 qui a stoppé la crise dévastatrice des devises des pays d'Asie du Sud, du Sud-Est, mais aussi du rouble russe. En 2008, au G8 de Toyako, au Japon, les premières solutions communes à la grande récession ont été apportées. La question est plutôt, faut-il faire évoluer ce format? Et la réponse est oui, évidemment oui. Nicolas Sarkozy l'avait compris en inventant le G20. Emmanuel Macron l'a bien senti en invitant l'Inde, qui devra en faire partie rapidement. Même Donald Trump pourrait en avoir saisi l'importance en proposant à terme de réintroduire la Russie dans ce club. Parce que, que voulez-vous? En diplomatie, on papote avec ses amis, mais on négocie avec ses adversaires.
Merci Anthony Bélanger, c'était Géopolitique.